Paroles d'un solitaire, souvenirs inédits par Louis de Robert. La condition, le rang, la fortune, les événements d'une existence eux-mêmes n'ont pas aux yeux du solitaire l'importance que leur accordent généralement les hommes. J'ai 50 ans. C'est l'époque de ma vie que je préfère. Quand il m'arrive de considérer un instant mon passé, je me prends en pitié, car il est rare que, depuis que je n'ai pas appris quelque chose, et l'instant que je considère me paraît toujours situé dans une région inférieure et comme vu à l'étage au-dessous. J'ai désiré tous les biens de ce monde, la fortune, la puissance, la gloire. Oh, je n'ai gardé que le goût du travail, une grande curiosité d'esprit et le même enthousiasme pour tout ce qui est beau, grand ou juste. Le reste, je l'ai laissé derrière moi, sans regret, sur ma route. Hélas, c'est un mauvais tour que nous joue parfois le destin en nous accordant ce que nous souhaitons le plus. Si tu as un peu d'imagination, jeune homme, apprends que notre rêve est souvent la seule réalité et que, une fois sur 10, obtenir, c'est perdre. Mon existence ne fut point enviable, car le plus précieux de tous les biens, celui sans lequel on ne peut goûter aucun autre, la santé, me fut toujours refusé. Et pourtant, j'accepterais de recommencer ma vie. Je souhaiterais même, si une nouvelle durée pouvait m'être octroyée, qu'elle eût pour point de départ l'instant où je suis parvenu. À 40 ans, je me sens délesté de tout fardeau inutile. Je n'ai plus de vanité, j'ai peu de besoins. Chaque pas que j'avais fait vers la sagesse m'a permis de connaître et d'attendre ma vie nature, ma vraie nature. Je sens avec évidence qu'à travers 1000 vicissitudes et quels que fussent les événements de ma vie, j'étais né pour devenir le solitaire que je suis. La splendeur du jour, la douceur d'exister, la seule vue de mon jardin, c'est une œuvre d'art comparable à la forme d'un iris, une heure de rêverie. Voilà des plaisirs modestes et négligeable, vous semble-t-il. Bien, c'est que vous ne savez pas jouir des choses essentielles et que vous ignorez la simple joie qu'on éprouve, seul, sans amis, quand rien ne vous distrait, à lever les yeux, à contempler le jeu du vent et du nuage, ce spectacle toujours le même et jamais semblable, cette perpétuelle féerie qui joue dans le ciel depuis le commencement du monde. Que de fois, sentant passer sur moi à ras de terre ce même vent qui règne dans l'espace, j'ai tendu instinctivement l'oreille, comme si sa voix lointaine m'apportait un mystérieux message. Est-il besoin d'être poète pour goûter cette ivresse chaste de l'âme à suivre là-haut ce nuage qui glisse, qui change de forme, qui se divise, qui se fragmente, pour se dissoudre lentement dans un silence éternel. Quelle grâce aux certains mots. Comme le mot « bruit » est aigu et vibre dans l'air, comme le mot « silence » est reposant et doux, et ce des saisons, hiver, ce n'est pas laid, hiver, c'est mal, c'est discret, décoloré. Mais printemps, quel élan, quelle jeunesse! Cela s'élance, c'est étoffé, pimpant, sonore, cela chante. Et l'été, est-ce que ce petit mot bref et bien équilibré ne peut pas admirablement, par sa forme écrite, et le son de ces deux syllabes, la saison du milieu. Graphiquement, cela figure une balance avec ses deux plateaux égaux, E, T. On peut l'aborder dans tous les sens. Il est imbuable. On peut le lire de gauche à droite et de droite à gauche. C'est toujours été. Et l'automne, quelle mélancolie, automne. Écoutez se prolonger le son qui, sans force pour s'élever, retombe. Cela endort l'oreille. Voyez comme son M suivi du N fait descendre par degrés la dernière syllabe et lui donne cette gaieté triste, cette grâce triste de déclin. C'est un phénomène digne de remarque que dans une vie solitaire et désœuvrée, les journées si lentes à s'écouler composent par leur accumulation les années qui semblent les plus brèves. Faute de points saillants où s'accrocher, l'esprit perd vite la notion de leur durée. Elle glisse sans laisser de traces, et par là se raccourcissent insensiblement dans la mémoire. C'est ainsi que, dans une vie pauvre en événements, un fait éloigné n'étant pas caché à l'esprit, effacé par d'autres faits nombreux et plus récents, garde ses couleurs fraîches et paraît proche. Si nous en fixons la date, nous sommes surpris. Par exemple, il m'arrive de me demander « Voyons, en quelle année ai-je dit à de quoi que je ne l'ai pas revu depuis et comme je le reconduisais à sa grille, faudra que je vous écrive un de ces jours pour prier de venir déjeuner. Il me semble que c'était hier. Comment ?» Et il y a 18 ans de cela ? Oh, mais c'est incroyable ! Si je rappelle à un ami, quand l'été raccourcit le chemin qui mène à ma solitude, un souvenir commun et déjà ancien, qu'il avait oublié, il s'étonne de ma mémoire. C'est que la sienne, surchargée, a dû éliminer une partie de sa contenu, tandis que la mienne, dont le fardeau est moindre, a tout conservé. Et par cela même, ces années révolues donnent l'impression d'une longue durée à l'homme de l'action qui a trouvé bref chacun de ses jours si remplis. Et ces mêmes années paraissent courtes aux solitaires, aux rêveurs inactifs, alors que chaque heure prise en soi lui avait semblé interminable. Quelle douce journée il fait, quelle est muette, quelle grâce est là, c'est l'automne. Combien je goûte cet enveloppement divin, cette présence secrète, cette âme partout répandue. Les jasmins sont malades, tout dans la nature prend un air de confiance et de confidence, la lumière qui décline un regard humain, la feuille qui tombe de l'arbre est comme une parole triste. Automne, cher automne, dont la morne féerie a toujours tant d'empire sur mon cœur, 20 années en même lieu, j'ai vu affaiblir la lumière sur le rideau de sapin qui limite ma vue. La dorure de cette lumière sur les ombres blanches, le charme un peu mystérieux de cet éclairage, tant de puissance poétique que délivre l'automne, ont sur l'âme une action incomparable, dont, pour ma part, je ne me lasserai jamais. Il ne fait pas un souffle de vent. Les oiseaux, trompés par la douceur de l'air, croient voir revenir le printemps. On entend ces légers cris, ces chuchotements, ces essais de chant qui en avril s'échappent des arbres et qui aujourd'hui, en cette saison penchée, tombante, où tout glisse vers le déclin, l'hiver et la mort, sont singulièrement émouvants. Par la chaleur, c'est l'été encore. Mais qu'est-ce donc de merveilleux qui plane dans l'air, qui vient de passer, qui demeure partout, suspendu? N'est-ce pas la présence invisible autour de nous, au-dessus de nous, d'une souveraine et immense sagesse? La nature maigrit en automne. L'arbre se dépouille de ses feuilles, comme l'année de ses jours. La sonnette investie par les lilas et qui captive tout l'été, ne teintait plus que faiblement, commence à recouvrer sa voix. Tout s'éclaircit autour de nous, en nous, et l'on songe, aussi loin comme en retournant, je puisse découvrir l'être ardent que je fus, je retrouve immuable en moi quelque chose de mélancolique, quelque chose qui est comme un automne intérieur. Pourquoi ce goût de la méditation, de la solitude et de plus rêveurs et mystérieux? Qu'enfant déjà j'éprouvais au contact de la douce lumière d'octobre, par ce temps vaporeux qui incline au souvenir même quand je n'avais pas encore de souvenirs. Sans doute ma destinée était-elle déjà inscrite dans cette région obscure et intuitive de l'âme qui échappe à la conscience. D'où cet accord, cette harmonie, ce sentiment de plénitude poétique entre la divine saison et mon être voué à un rapide déclin, à cette morne vie incertaine et menacée. L'homme peut jouir de ces dernières journées de fête, de ce triste enivrement, de cette atmosphère qui s'est détendue, alanguie, de ce doux enveloppement si tiède, doré, si velouté, qu'on le dirait affectueux. Ou bien il peut préférer la magie des beaux jours d'été, goûter toutes les minutes émouvantes, enivrantes, que lui offre la nature. Son cri d'angoisse est toujours celui de Loti. Oh, qui dira pourquoi il y a sur terre des soirs de printemps et de si jolis yeux à regarder, et des sourires de jeunes filles et des bouffées de parfums que les jardins vous envoient quand les nuits d'avril tombent. Et tout cet enjoliment délicieux de la vie, puisque c'est pour aboutir ironiquement aux séparations, aux décrépitudes et à la mort. Et pourtant, la raison nous dit que la mort est nécessaire. La mort est nécessaire, car la quantité de vie que peut contenir la planète n'est pas illimitée. S'il n'y avait pas la mort, il n'y aurait pas de naissance. L'homme simple comprend cela. Mais pourquoi ce renouvellement? Il est permis de croire que l'effort humain est utile à la nature, qu'elle a besoin de notre intelligence, de notre collaboration. Or, la jeunesse entreprend et la vieillesse conserve. S'il n'y avait pas eu la mort, toute existence dans l'univers étant soumise à l'inévitable loi du déclin, les hommes, ayant fait leur tâche, se fussent reposés. À partir de ce moment, toute chose sur terre serait demeurée stationnaire. Cela est-il concevable? La mort n'est donc pas une cruauté inutile. Il fallait la mort pour le rajeunissement de l'esprit humain, de son activité, de sa faculté d'invention. Quant au beau rêve de se survivre, quant au jardin enchanté qui nous attend sur l'autre rivage, faut-il voir là autre chose qu'une illusion constante et consolante? C'est l'orgueil de l'homme qui lui fait imaginer que l'immortalité lui est due. Mais qu'est-il par rapport à la race, sinon une des feuilles de l'arbre? Fais des enfants, pauvre homme, si tu veux te relever du tombeau pour venir à la fenêtre de leurs yeux. Regardez à demain ce qui se passera sur terre. Il se peut que par eux, quelque chose de toi soit encore vivant dans 1000 ans, et qu'à ce moment, une goutte de ton sang palpite encore dans un arbre terre humaine. Cela ne te suffit donc pas? J'ai un premier esprit, et puis j'ai un second esprit plus profond. Mais ce second esprit, j'en ai perdu la clé. Je mourrai sans y plus pouvoir pénétrer, car il me faudrait pour cela faire un effort dont je suis devenu incapable. Travailler, se donner à une œuvre, la porter longuement, l'écrire avec amour, être tour à tour confiant, inquiet, enthousiaste, découragé, trembler pour une virgule, croire que tout édifice est par terre à cause d'une phrase malvenue, en un mot, s'exhaler, cela m'est interdit. J'ai rêvé un moment d'écrire un livre sur la bonté. J'y pensais avec une sorte de fièvre, d'éblouissement. Mais un tel livre exige un don de soi, une obsession qui passait mal et mes forces. Et un cerveau vibrant dans un corps débile n'est qu'un pauvre instrument dont le métal trop fusible ne saurait supporter une certaine température, car dès qu'on les chauffe, ils fondent. Des jours entiers, je dois compter interminablement. 1, 2, 3, 4, 5. Pour apaiser, pour faire taire cet intolérable bourdonnement de ruche que je porte entre les tempes. Il est des heures où je puis supporter le poids d'une pensée. Ainsi, je suis voué au désœuvrement que j'exècre et dois me résigner à gaspiller chaque minute qui passe, si précieuse, si comptée, et qui est perdue à jamais. Je n'ai rien à moi. Mon esprit m'est infidèle puisqu'il me fait mal. Mon corps lui-même est mon ennemi. Mais que ferais-je donc aujourd'hui? Ce que j'ai fait hier, rien. Courez vers le bonheur, vous qui avez des jambes. La jeunesse, l'ardeur, le souffle et l'élan. Le bonheur, si vous l'atteignez, ne vous révélera pas à vous-même. Nous ignorons nos organes avant d'en avoir souffert. Celui qui n'a pas connu l'étouffement ne sait pas ce que c'est que de respirer, et seul le prisonnier est capable de goûter les délices de la liberté. Au moins, l'épreuve a ceci d'utile, qu'elle nous apprend le prix des choses. C'est le plus beau miracle humain que de tirer un bienfait de l'adversité. On aime le jour, on n'aime pas la nuit. Pourtant, le jour ne nous montre que la terre, et seule la nuit nous découvre l'infini des astres. Lorsque nous ouvrons les yeux le matin, nous sentons encore en nous bien des paupières closes. Il en est qui s'ouvriront qu'à la lecture d'un livre, au cours d'une promenade, à l'occasion d'une lettre reçue, à la faveur d'un souvenir. Sans cesse, de nouvelles parties de notre esprit accèdent à la lumière, tandis que d'autres rentrent dans l'obscurité. Ainsi, nous sommes d'une façon différente à chaque heure, pareillement endormis et partiellement éveillés. La variété, le mouvement, l'intérêt peuvent donc se découvrir dans le déroulement du temps, en apparence le plus inemployé. Rien ne me presse, nul ne m'attend. Je peux flâner jusqu'au soir, demeurer à cette place, aller cueillir ces lys, cet œillet, cette rose mousseuse, observer avec patience cette mésange qui a construit son nid un peu imprudemment dans cette haute d'aubépine, juste à la hauteur de ma main, et qui finit par s'habituer à ma présence, suivre sans bouger le manège de cette industrieuse, diligente et stupide fourmi qui, depuis une heure, s'obstine en vain à soulever, à prendre par tous les bouts, à pousser, à traîner ce cadavre de grillon trop lourd pour ses forces. Je peux laisser errer mes yeux sur ce jardin étroit et long, tout livré à lui-même, et où m'entoure, à l'endroit que je préfère, un vieux prunier vêtu de lierre qui a la forme d'une harpe, de hauts poiriers, de curés, qui ont la forme de jets d'eau, un tilleul, un sorbier, un sycomore. Sur le prunier, le lierre a grimpé avec tant d'abondance qu'il forme aujourd'hui une énorme colonne feuillue, toute palpitante au moindre vent. Les deux poiriers géants s'élèvent à 10 mètres du sol pour retomber en une multitude de branches dont la courbe et l'arceau ont une grâce indicible. Une rangée de lilas achève de m'enclore. Quel palais de marbre et d'or vaudrait ce cloître de verdure? Toute la joie est pour mes yeux. Et si je ferme parfois les paupières, la joie se dissout de mes yeux, mais elle ne me quitte pas. Elle rentre aussitôt en moi, par l'oreille, avec le chant des oiseaux. Tout à l'heure, ma cousine Eugénie viendra me voir et me lire dans Plutarque la vie de Scipion, de Thémistocle ou de Périclès. Je referai connaissance avec tout ce qu'il y a de magnifique vertu, de duplicité, de grandeur d'âme, de gratitude dans l'homme à partir de l'heure où s'éveilla dans son cerveau la divine intelligence. Je referai connaissance avec ce charmant Coriolan, aussi vite enflammé par son courage que par la colère et dont l'exemple montre ce que peut une tendre mère sur le cœur d'un héros. Lire soi-même, il n'est pas d'occupation plus abondante et plus absorbante. Ce n'est pas seulement recevoir, c'est se donner. Aucune évasion possible. Êtes-vous préoccupé, distrait, vous ne comprendrez pas rien à ce que vous lisez. Il faut recommencer la page. Et tandis que si vous écoutez lire, vous pouvez regarder le paysage, rêvasser. Une attention limite, restreinte, est suffisante pour suivre le fil du récit. D'ailleurs, en se donnant moins, on reçoit moins. De la voix qui lit à l'oreille qui écoute, il se perd beaucoup en chemin du sens total de l'œuvre. Et au lieu de se graver profondément en moi, elle ne se dessine que faiblement sur du sable. Mais en toute chose, je suis habitué à me contenter de demi-mesure. La grande loi de ma vie m'interdit de vivre. À l'égard de moi-même, je me considère comme une sorte de conservateur de musée. J'ai le droit et le devoir de regarder vieillir les trésors que j'enferme, d'en prendre soin, mais il ne m'est pas permis de m'en servir. Et les jours passent qui vont au néant, et dans cet état stagnant qui est le mien, on perçoit mieux tout au fond de l'être le niveau qui baisse, le muet ruissellement de la vie qui s'en va. S'il meurt prématurément en pleine renommée, quelqu'un dont on attendait beaucoup, ou bien dans l'ombre, quelque génie inconnu, la nature nous en donnera tôt ou tard la réplique, ai-je dit ailleurs. Ce qui doit être tente toujours à se réaliser. Une belle œuvre qui n'a pas eu le temps d'éclore ne s'anéantit pas avec le cerveau qui l'a conçue. Elle demeure en suspens, et quelque jour elle s'achèvera dans un autre cerveau qui ne saura pas d'où celle-ci est venue. De même, une grande pensée naissante qui n'a pas été formulée. L'inspiration ne nous appartient pas. C'est une force que nous puisons hors de nous. Ce que nous croyons inventer nous est souvent suggéré par on ne sait quels échos, quels reflets que l'atmosphère a conservé de ce qui a fait et fit avant nous et que nous ignorions. Tout progrès réalisé une seule fois, même sans témoin, même à l'insu de tous, est acquis au trésor commun. Cet artisan a trouvé un jour un moyen pratique qui simplifie son travail. C'est un geste ingénieux, utile, auquel nul n'avait encore songé. Sa trouvaille est une chose infime dont il ne parle à personne et qui semble destinée à disparaître avec lui. Mais non, son geste n'est pas perdu. L'air en a pris l'empreinte. Un moule subtil est formé. Plus tard, demain ou dans un siècle, un homme, croyant l'inventer, refera ce geste, parce qu'il aura rencontré, guidant sa main, une inspiration mystérieuse qui ne sera que la survivance dans l'air qui l'entoure du geste autrefois fait, et comme demeuré inviolable et invisible, dans l'espace, là, prêt à être reproduit. Cette maison que j'ai bâtie au pied de la colline, dans cet enclos étroit et long, qui n'était alors qu'un champ de pavots, est petite mais solide. Dans deux ou trois siècles, si ceux qui l'occupent après moi viennent à la conservation, elle leur sera encore debout. Comme elle est modeste, il est probable qu'elle connaîtra des gens communs qui, le dimanche, en bras de chemise, joueront au jeu de pot tonneau ou bien, assis sur des chaises de jardin, boiront de la bière à l'ombre du grand acacia. Mais il me plaît d'imaginer que plus tard, dans 100, dans 200 ans, un jeune homme studieux, pensif, aimant les lettres, viendra promener en ces lieux une âme de poète. Il ne saura rien de moi, ni mon nom, ni ce que je fis, ni même que j'existais. Certains aspects des choses auront changé. Aucun de ces arbres ne sera plus là. Mais la figure du ciel sera toujours la même. Assis, sans doute, à l'endroit que je préfère, il y verra défiler les chars lumineux, les nefs irisées, les nuages. Le soleil, pareillement, se lèvera le matin, endorant la colline, et se couchera derrière elle. La terre, en tournant, présentera vers 5 heures la façade ouest de la maison à son adieu quotidien. Moi, je reposerai dans cette même colline, entre la plus tendre mère, ma chère Eugénie, et j'aurai achevé, depuis longtemps, de restituer à la terre l'argile dont je fus formé. Nul fantôme, pas un souvenir, pas une ombre ne viendra voltiger dans cet endroit et dans cet restreint espace qui, pendant un quart de siècle, aura enclos ma vie. Tant de fois, les peintures, les papiers d'ornement se seront succédés dans cette maison que rien de moi n'y subsistera, et les taches de vernis accumulées autour auront sur la rampe de cet escalier de bois effacé depuis longtemps la trace de ma main. Et cependant, il suffira qu'un poète respire en ce lieu pour qu'en lui, obscurément, à mon insu peut-être, quelque chose perçoive qu'un poète autrefois est passé par là. Il tournera la tête, croyant sentir une présence amie qui ne s'expliquera pas. Il interrogera les impénétrables et cherchant à me découvrir, c'est lui-même qu'il découvrira. Alors, tout ce qui m'a ému, enivré, soulevé jusqu'au délire, il l'éprouvera à son tour. Je ne serai plus que poussière, mais le souffle qu'il sentira passer en lui viendra de ce que ces lieux furent hantés autrefois par un être solitaire, inquiet, rêveur, inachevé. Ainsi je t'appelle, toi qui ne naîtras peut-être que dans deux siècles, toi dont la mer est encore dans le néant, sans nom, où attendent les vies qui ne sont pas encore écloses. Et en toi frémira l'amour de la gloire. Les grands noms de Shakespeare, de Goethe, d'Hugo, lui, dans un dictionnaire, éblouiront tes yeux et ta pensée. Les livres qui racontent des hauts faits de César, tu les sentiras dans ta main s'ouvrir d'eux-mêmes comme sous une poussée impérieuse. Tous les grands esprits éteints que ton admiration a élus, les magnifiques amis de tes rêves, tu les interrogeras dans leur œuvre, tu les suivras dans leur vie. Tu referas les pas qu'ils ont faits, et de cette manière, tu entreras dans l'intimité de Pascal, de Montaigne, de Jean-Jacques. Tu les écouteras parler, tu te compareras à eux. La trace de lumière qu'ils ont laissée dans le monde par leur exemple, où le génie t'invitera à les imiter. Tu les sentiras, selon l'heure et les circonstances, revivre furtivement en toi. Un jour de fermeté d'âme, tu te croiras Caton, et un jour de sagesse, tu seras Socrate. Ainsi je t'évoque. Une prédilection obscure te fera choisir ma chambre. Tout y sera nouveau. Mais les fenêtres auront la même orientation. Parlez-lui de mai. Si tu laisses ouverte celle qui donne sur le jardin, tu entendras le rossignol si ardent, si ponctuel, si soumis à sa fonction, que pendant la guerre, quand les avions allemands survolaient Paris, quand tous les forts de la défense tournaient à la fois, et que la terre tremblait. Lui, dédaigneux, innocent et royal, il chantait. La lune divisait le paysage. Les pivoines expirantes avaient une faible odeur de rose. Il chantait. Et autour de lui, la mort portée par le fer, le feu, la mitraille, sillonnait l'espace. La nuit se déchirait en mille endroits, comme une étoffe sous l'éclatement des shrapnels qui scintillaient comme des paillettes. Et les hommes dans leur maison rentraient la tête dans les épaules en entendant le miaulement sinistre des obus. Mais lui, si petit, si frêle, ignorant le danger. Il chantait à pleine voix. Tu écouteras longuement cette voix, si douce, si pure, si puissante, qu'exprime la poète de l'arbre, des feuilles, de l'eau, de la terre et du ciel, cette voix qui met dans les cœurs séparés la nostalgie de l'absent. Tu imagineras sa petite tête chaude et vibrante, pendant qu'il jette à la mer, à la nuit, ses notes de cristal et d'or, avec une sorte de fièvre, d'enivrement, de démence, jusqu'au matin où, à bout de force, il se taira, enfin vaincu, le bec sous l'aile, et croyant expirer. Alors, comme une apparition mystérieuse et sacrée, comme une visite auguste, attendue, toujours exacte, tu pourras, si tu es éveillé, voir se fixer sur la cloison qui fait face à la fenêtre le premier sourire du jour. Cette lumière rose changeante, émouvante, glissera sur la tenture selon une marche immuable, et cela chaque jour, tant que cette cloison sera là, tant que cette fenêtre sera ouverte, sans se tromper jamais. De même l'hiver, parfois en février vers 2 heures de l'après-midi, à cause d'une particularité de la maçonnerie, tu verras soudain une petite fleur de feu éclore et palpiter sur le pan coupé de la cheminée. Courte flamme qui décroît de minute en minute, que j'ai tant de fois suivi des yeux. Mais brusquement, comme si une bouche invisible avait soufflé dessus, tu verras, avec un soupir de regret, s'évanouir d'une façon magique la petite lueur qui aura traversé le vertigineux espace pour venir dans cette chambre apporter au poète le furtif bonjour du soleil. Mais je t'évoque surtout à cette heure adoucie de la fin du jour qui est comme l'automne de la journée. C'est l'été. Le son qui se répand autour de toi est si doux qu'il fait songer à la brièveté de la vie. La fenêtre est ouverte. Tu écris. Il tombe sur ta feuille de papier le même éclairage qu'en ce moment baigne la mienne. Tu écris avec une couleur chaleur d'esprit qui refroidit les mains. Je vois ton front ardent sous lequel la peur de beauté, un peu de beauté que je t'ai fait qu'entrevoir, s'épanouit magnifiquement. Tu seras la réalisation éclatante des promesses que je portais, le cerveau achevé dont je ne fus que la chrysalide. Ainsi, ce que je n'ai fait qu'ébaucher trouvera en toi son expression parfaite, car ce qui me fut confus te sera clair, et ce que je n'ai pas pu dire, tu le diras. Quand à 29 ans je perdis la santé et fus pendant de longs mois en danger de mort, ce qui m'affligeait le plus, c'était la pensée que ma mort ne servirait à rien. J'aurais voulu qu'elle fût utile à quelque chose. Oh, n'avoir rien fait durant le temps si court départi à l'homme pour accomplir sa tâche, avoir passé vraiment, vainement, sur la terre, cette idée me désespérait. Et la convalescence venue, le médecin me dit « Oh, il faut vous résoudre à vivre 3 mois sur une chaise longue pour achever de vous guérir. » Je souris en pensant à ma révolte. L'homme jeune et impatient, exigeant. Vivre 3 mois étendu, cela passait mon courage, me semblait positivement au-dessus des forces humaines. Or, ces 3 mois vont durer jusqu'ici 22 ans. Heureusement qu'il n'est pas nécessaire pour apprécier la vie de n'avoir eu d'elle que des sourires. Une femme est souvent plus aimée par l'homme qu'elle repousse que par celui qu'elle exauce. Et souvent aussi, c'est le premier qui le comprend le mieux. On voit toujours plus clair dans ses défaites que dans ses victoires. Et réfléchir sur les raisons d'une disgrâce est préférable à ne pas réfléchir du tout. Aussi ne me croyez pas là, taciturne, découragée, le moins du monde. Réduite à l'état de veilleuse, sans fortune, solitaire, privée des plaisirs matériels qui, nul selon vous, lui donne quelque prix, la vie reste pour moi un présent merveilleux, pourvu que la frémisse encore au vent, à la lumière, je consens à n'être qu'un arbre, quelque chose comme ce vélingonia que j'ai planté dans mon jardin et qui, dit-on, dans certaines contrées, atteint 150 mètres de haut et vit un peu plus de 60 siècles. Une des conséquences de la solitude est d'accentuer, d'exagérer la personnalité. Quand on a contracté l'habitude de toute chose de ne prendre conseil que de soi-même, on finit par en avoir plus confiance qu'en son seul jugement. Il en résulte, chez le solitaire, un esprit un peu étroit peut-être, mais singulièrement net et non déformé par l'influence d'autrui. Celui qui vit en société doit s'adapter dans une certaine mesure à ce qu'il fréquente, et cela au dépend de sa vérité intérieure. Il se modifie parfois à son avantage, mais on n'est soi-même que dans la solitude. Ainsi, à un certain point de vue, la solitude donne de l'orgueil parce que, réduits à nos propres forces, nous apprenons mieux à connaître ce que nous valons. Solitaire, où je ne l'ai pas toujours été, malgré un penchant naturel à la sauvagerie, j'ai recherché autrefois la société de mes semblables, et plus particulièrement de ceux qui servirent les lettres. Non avec plus d'amour, mais plus de bonheur et parfois avec génie. Cher Lotti, si riche de dons que vous fuyez la bibliothèque et que vous avez tout tiré de vous-même, âme d'enfant et de prince, vous qui avez aimé si passionnément la jeunesse et la beauté, connu tous les aspects de la terre et goûté à toutes les douces choses de la vie, qui croira qu'en promenant à travers le monde votre royal exil, vous vous êtes imposé tant de grands et de petits devoirs et pitié volontairement à une stricte, sévère et quotidienne discipline. C'est pourtant votre exemple qui m'a fait concevoir qu'il est préférable, et en tout cas moins décevant, d'obéir à une règle qu'à son caprice. C'est vous qui m'avez dit ceci. En commençant ma journée, j'ai toujours choisi de faire avant toute chose ce qui me plaisait le plus. Ce n'est pas Rostand qui ait jamais l'idée, en commençant sa journée, de faire ce qui lui déplaisait le plus. Dormant peu, il lui arrivait de rester couché jusqu'à 6 heures du soir. Un ami qui venait le voir, portait-il un grand nom, n'était pas toujours sûr d'être reçu, et l'ermite d'un regard laissait souvent sans réponse les lettres les plus présentes. À cause de cela, beaucoup crurent longtemps que, gonflés d'un orgueil immense, il se plaisait à vivre sur la cime imaginaire où il avait placé l'admiration du monde. En réalité, Fut-il jamais artiste plus inquiet, doublé d'un homme plus simple et plus charmant. Je lui fis cadeau, si je puis dire, en 1901 d'un compagnon qui m'était cher, qu'il prit en amitié et qui ne le quitta guère qu'à l'instant de sa mort. Celui-là pourrait nous donner un recueil de souvenirs capables de mettre en lumière cette figure glorieuse et si peu connue. Pour moi, il me revient à l'esprit un trait qui peint bien sa noble nature. Il savait que Bataille le haïssait. Sur ce point, Boer, Sarah Bernard, d'autres encore lui avaient ouvert les yeux. Ainsi, lors des difficultés que Bataille avait avec Sarrau au sujet de sa pièce Faust, Rostand, ayant écrit sa grande tragédienne pour l'exhorter à la conciliation, celle-ci lui répondit: si vous saviez en quels termes il parle de vous, comme il vous traite, vous ne prendriez pas sa défense. Rostand, un jour, me racontait ces choses. Je lui dis: alors, Bataille se présentait à l'Académie. S'il se présentait, que feriez-vous? Il reste un instant silencieux, puis simplement: croyez-vous que cela m'empêcherait de voter pour lui? Si grand que tu sois parmi les hommes, ne t'en remets pas aux autres du soin de veiller sur ta vie. Prends toi-même tes précautions, car tu aurais tort de croire que si le génie t'a arraché de la femme, si tu es utile à tes semblables, si tu as une mission à remplir, la nature te protège. Un charretier, un matin, attelle son cheval sur un fardier. Il s'agit d'aller sur la rive gauche, quelque part, rue Bonaparte, rue du Bac, vers un but indifférent. C'est un jour comme les autres. Rien ne fait pressentir l'événement qui se prépare. Cependant, l'heure est venue. Quel est cet homme grisonnant, mal vêtu, perdu dans ses pensées, ce maladroit qui ne regarde pas devant lui? Il heurte le cheval, il tombe. C'est Pierre Curie. Adieu, grand homme. Tes yeux ne s'ouvriront pas sur le monde. Ta tâche interrompue, d'autres la reprendront. Mais toi, tu ne reparaîtras jamais plus sur la terre. La mort a pris Rostand d'une façon différente, mais tout aussi perfide. Il venait de passer l'été à Cambo. Il toussait un peu. Les cloches de l'armistice l'appelèrent à Paris. Le jour de son départ, la douceur de l'air, la dorure éteinte du soleil dans ses beaux jardins d'Arnaga, une certaine langueur qui était dans le paysage et qui était aussi en lui, le firent hésiter. « J'ai bien envie de ne pas partir. » Mais les domestiques étaient déjà à Bayonne avec les bagages. Les places étaient retenues dans le Sud-Express, et il alla vers son destin. S'il avait su, il voyait venir à lui une vieillesse sereine, embellie par une gloire aux rayons apaisés, et qui, après l'avoir entouré de curiosité, d'ignorance et d'envie, commençait à l'entourer de respect. Il disait: « Oh, je vivrai jusqu'à 70 ans. » C'était la fin de la guerre. Depuis le début de la retraite allemande, il était fort gai. Par une détente naturelle de tout son être, délivré à enfin de l'angoisse centre patriotique des quelques 4 dernières années, il éprouvait le besoin de se livrer à des manifestations gamine, tout à fait surprenante, chez lui. Par exemple, il s'amusa un soir, caché dans un bosquet qui dominait la route, à pousser des exclamations burlesques comme un étudiant et interpellait d'une voix contrefaite les rares passants interloqués et ahuris. J'étais à Cambo quand me parvint la nouvelle que je redoutais depuis le départ de son fils Jean, appelé par télégramme. Je me rendis à Arnaga. Je voulais revoir une dernière fois les beaux jardins à la française, dessinés par la fantaisie du poète sur le plateau défriché par lui, et d'où l'on domine le cours sinueux et doux de la Neva. Et 15 jours auparavant, il était là, entouré de ce qu'il avait pour lui de précieux sur la terre, les êtres qui lui étaient chers, les choses qu'il attachait à la vie. Avant de monter en voiture, il dut m'embrasser du regard ces lieux familiers qu'il dut quitter pour toujours. Comment ne comprit-il pas, lui, dont la délicate santé exigeait depuis 20 ans des soins quotidiens, le langage de cette petite toux qui lui disait « Reste !» Il se sentait un peu fatigué, facilement essoufflé. Ses poumons, dont il ne soupçonnait pas le mauvais état momentané, lui faisaient à la façon des signaux de détresse. Comment ne les perçut-il pas? À quoi lui auront servi, à une heure fatale, l'esprit le plus intuitif, le sens le plus aiguisé, l'oreille la plus subtile? Je me fis conduire dans sa chambre qui était la plus modeste de ce magnifique demeure. J'en revois le tapis mauve, la toile de Jouy, le petit lit de cuivre poussé contre la cloison, et au-dessus, les deux seuls portraits de sa mère et de son fils, Jean. Le soleil éclairait avec indifférence ces beaux jardins qu'il voyait tous les matins de son lit. La fenêtre était ouverte. Avec un bruit de papier froissé, les pigeons blancs qu'il aimait volaient avec grâce, reflétés par les pièces d'eau. Et dans la chambre, mes regards se posèrent sur le buvard, où il s'amusait, durant ses longues heures de solitude, à dessiner une figure de mousquetaire, 100 fois répétée. Je m'arrêtai devant l'unique fauteuil où son chapeau de velours était posé, si mal naturellement, qu'il semblait avoir gardé la chaleur de la tête. Je considérais ces choses avec recueillement. Et puis, l'âme pensive, le cœur ému, je me suis retiré sans bruit sur la pointe des pieds.